VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour à Ouagadougou, midi à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, deuxième jour de la visite du président nigérian Muhammadu Buhari. Quels sont les objectifs du nouveau leader du Nigeria? Au micro de Timothée Donangmaï, l'analyse du professeur Eric Mathias Owadan-Ngini de l'université Yaoundé 2.
Il s'agit pour le nouveau leader nigérian de discuter directement avec son homologue camerounais, le président Paul Biya, de manière à évaluer l'ensemble des relations Cameroun-Nigéria. Bien entendu, l'un des points est la crise sécuritaire attachée à l'action de Boko Haram dans le contour du lac Tchad et de la manière dont les deux pays associés au Tchad et au Niger pourraient coopérer pour lutter contre ce phénomène d'insécurité.
Jusqu'ici, les soldats camerounais sont contraints de se limiter à opérer sur leur territoire national contre Boko Haram. Qu'est-ce que le Cameroun attend de ce côté?
Je pense que le Cameroun attend surtout une intensification des échanges d'informations et de renseignements et peut-être un accord autour de mécanismes de coordination qui pourraient favoriser une stratégie commune de lutte contre Boko Haram. Le point spécifique du droit de poursuite est un point très controversé parce que le Nigeria, sous le président Goodluck Jonathan, avait sollicité du Cameroun un droit de poursuite qui lui avait été refusé, ce qui faisait que quand Boko Haram a commencé à agir contre le Cameroun, il était extrêmement difficile pour les autorités camerounaises de demander au Nigeria de leur accorder un droit de poursuite qu'elles avaient refusé à celui-ci.
Le professeur Eric Mathias Owadan-Ngini de l'université Yaoundé 2. L'armée nigériane a nommé aujourd'hui le général Ilia Abba comme chef de la force militaire multinationale chargée de combattre les militants islamistes de Boko Haram. C'est ce qu'annonce l'AFP. Cette force d'intervention conjointe regroupant les troupes du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Bénin a son siège à N'Djamena et doit compter 8700 hommes au total. En RDC, suspension de manière abrupte de l'enquête sur des malversations douanières et fiscales présumées mettant en cause des compagnies minières opérant dans le Katanga et des agences douanières locales. Une affaire qui porterait sur des allégations de fraude évaluées à plus de 3 milliards de dollars. Depuis Kinshasa, le reportage de Ning Long, présenté ici par Eddie Isango.
Il s'agit d'une enquête sur les allégations d'une fraude sur une période de 4 ans, soit de 2009 à 2013, concernant les services de douane dans la province du Katanga, riche en minerais et pourvoyeuse pour les restes de l'économie du pays. La semaine dernière, Mushizi Kizito, parlementaire de l'opposition, a demandé qu'il reprenne les investigations sur les dites allégations. Joint par VOA Afrique, il a expliqué que l'enquête a été ouverte en 2013 après que le ministre de la Communication a été informé des dénonciations concernant ses services.
Je ne sais pas exactement qui a dénoncé quoi, mais il a eu des informations selon lesquelles il y avait une grave corruption, une grave perte d'argent du trésor public à la DGDA Katanga. Et il a initié une lettre pour sa collègue de la justice.
Kizito dit ne pas savoir qui a dénoncé quoi, mais qu'il y a eu des informations faisant état des graves corruptions et fraudes et que le ministre Mende a envoyé une lettre à ce sujet au ministère de la Justice. Ceci a poussé les procureurs de la République à envoyer une équipe d'enquêteurs dans les Katanga en septembre 2013. Selon Kizito, l'équipe a récupéré quelques 700 millions de dollars américains en seulement 10 jours en termes de douane et autres taxes non payées. Cependant, l'équipe a été rappelée à Kinshasa avant d'avoir examiné la plupart des documents se rapportant à la période, a indiqué Kizito. M. Mende a confirmé qu'il avait initié la mission d'enquête.
Je ne sais pas s'ils ont récupéré de l'argent. Ils ont identifié effectivement des gros montants qui avaient échappé au trésor, mais la mission a été brutalement interrompue, nous ne savons pas par qui. Donc c'est quand même un dossier qu'il serait intéressant de reprendre.
M. Kizito soutient pour sa part que les enquêteurs ont récupéré plus de 700 millions de dollars, mais il précise que ce montant était inférieur à ce qui devait être recouvré.
C'est évalué à plus de 3 milliards de dollars. Les entreprises concernées sont au nombre de 279. Il y a des entreprises dans le secteur des mines, dans le secteur des boissons, dans le secteur des services. L'import export, donc toutes sortes d'entreprises.
Les 3 milliards de dollars auraient bien pu grossir les budgets annuels de l'État qui s'élève à près de 8 milliards de dollars, selon Kizito, qui estime qu'il y aurait une fraude de la même échelle dans d'autres provinces. Pour M. Kizito, les montants des 3 milliards seraient constitués d'évasion fiscale légale réalisée par les billets des transferts des prix et d'autres moyens, plutôt que d'évasion fiscale illégale proprement dite. M. Kizito regrette qu'il n'y ait pas eu de poursuites judiciaires dans cette enquête première du genre dans le pays. François Katinde de l'ASADO, ONG de défense des droits de l'homme, a aussi confirmé que les montants étaient recouvrés.
Une liste d'une dizaine d'entreprises à mon bureau qui avaient procédé au paiement.
Selon M. Katinde, 10 entreprises se sont acquittées après que son ONG a publié les dossiers. Il soutient aussi que plus de 700 millions de dollars ont été récupérés auprès de 2 entreprises. Personne n'a été en mesure de dire qui a ordonné la suspension de l'enquête. Les montants devant être recouvrés n'est pas non plus connu.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, les dirigeants d'opposition comptent transmettre aujourd'hui au président Denis Sassou Nguesso les conclusions de leur dialogue alternatif qui a pris fin mardi, à savoir un appel au chef de l'État lui demandant de ne pas convoquer un référendum pour changer la Constitution. Les détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Après 3 jours de concertation, les opposants gardent de ces travaux une seule ligne directrice: le non-changement de la Constitution. Gilda Mounsara, participante et porte-parole de la plateforme qui lutte pour le respect de l'ordre constitutionnel.
Nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour le respect des principes de la démocratie et donc normalement la limitation du nombre de mandats. Et nous voulons dire au président de la République que la Constitution qui régit notre pays, qui fait de lui président de la République, ne lui donne pas l'initiative de convoquer un référendum.
La moisson ainsi obtenue sera transmise au président Denis Sassou Nguesso pour qu'il en tire la conséquence. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
La Somalie progresse sur la voie de la démocratie malgré le report des élections par le gouvernement après l'année 2016 pour cause d'absence de progrès politique et aussi d'insécurité. C'est du moins l'avis de l'émissaire spécial de l'ONU dans le pays, Nicolas Kay. Bagasikoura nous en dit plus.
Mercredi, le président somalien Hassan Cheikh Mohamud a déclaré à la VOA que son gouvernement n'est pas en mesure de tenir des élections au suffrage universel dans les circonstances actuelles. Selon lui, ces élections auront lieu sous une autre forme. Hassan Cheikh Mohamud. C'est le summum de la démocratie que tous ceux qui ont le droit de vote puissent voter. Mais il y a un grand fossé entre cela et notre situation actuelle, a déclaré le président Mohamud. On n'a jamais dit qu'une élection n'était pas possible. Il y a différentes étapes et différents modèles pour les élections et nous visons la meilleure option pour les prochaines élections. Mais on ne s'est pas encore mis d'accord sur un format de transition en 2016. Le président Mohamud ne veut pas que cela soit vu comme un échec de son gouvernement à honorer ses engagements. Nous n'avons jamais promis le suffrage universel ni d'installer des urnes dans chaque mètre du pays, a-t-il dit à la VOA. Cette annonce n'est pas une surprise selon Nicolas Kay, représentant de l'ONU dans le pays. Ce dernier assure qu'en Somalie, le chemin de la démocratie est là.
Et ici aux États-Unis, un policier blanc inculpé hier de meurtre pour la mort du noir Sam Dubose, abattu lors d'un banal contrôle routier dans l'État d'Ohio le 19 juillet dernier. Selon le procureur chargé du dossier, il s'agissait d'un meurtre insensé, motivé par la colère. Michel Joseph.
En effet, le procureur Joseph Dieters a expliqué à la presse que le policier n'avait pas affaire à quelqu'un qui était recherché pour meurtre, mais plutôt à quelqu'un qui avait une plaque d'immatriculation manquante. Le policier, un certain Ray Tanzing, 25 ans, avait déclaré aux enquêteurs avoir tiré parce que, en prenant la fuite en voiture, la victime de 43 ans l'avait entraîné dans la course. Mais le visionnage des images de la caméra du policier a révélé qu'en réalité, il n'avait jamais été en danger. Plusieurs bavures policières au cours desquelles des policiers blancs ont tué des hommes noirs non armés ont ravivé depuis un an les tensions raciales ici aux États-Unis, entraînant des manifestations qui ont dégénéré parfois en émeutes et relancé le débat sur la violence policière, en particulier parce que la plupart des policiers n'ont pas été poursuivis.
Et pour terminer, le premier ministre malaisien Najib Razak a déclaré aujourd'hui que le débris d'avion découvert cette semaine à La Réunion dans l'océan Indien venait probablement d'un Boeing 777. Mais à son avis, il reste à vérifier si ce fragment d'aile provient du vol MH370 qui a disparu le 8 mars 2014 sans laisser de traces, alors qu'il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.